Et on poursuit dans une suite cette fois. On s'en va en chronique. La chronique avec notre ami Éric.
Je vais te parler, mon ami. Les libéraux fédéraux, ils sont en train de s'armer hein, contre le projet de loi 21.
Ben oui, je pense qu'ils vont en faire leur cheval de bataille, puis ça va enlever un peu l'écran de fumée qu'il y a devant eux à cause de la question de SNC-Lavalin. Parce qu'on n'arrête pas de parler justement, bon ben, du fait que les deux ex-ministres ont été exclus du caucus libéral. Donc, pour eux autres, c'est comme une manière de se revaloriser en disant, ben nous, on va être les défenseurs des libertés individuelles, on va être les défenseurs de ceux qui justement sont laissés pour compte parce que ils doivent choisir entre leur religion et leur travail, leur profession. Et à ce moment-là. Il y a une équipe qui leur a fourni des lignes médiatiques pour justement alimenter l'opinion publique, puis démontrer que ce projet de loi qui veut que les personnes en autorité, comme les policiers, les enseignants, les gardiens, gardiennes de prison, puissent pas porter de signes visibles qui fait référence à une religion. Donc, des signes religieux ou des symboles religieux. Et c'est pour ça que le fédéral se dit, bon, ben nous, on veut être les défenseurs de ceux qui sont laissés pour compte. Puis, ils vont lancer des lignes comme « Le Canada est un pays laïque » et cela, ça se reflète dans toutes ces institutions. Les employés de l'État ont le droit d'afficher leurs croyances et personne ne devrait avoir à choisir entre un emploi et son droit de porter un signe religieux. Donc, ils ont des lignes médiatiques comme ça. Et c'est de bonne guerre parce que ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça pousse un débat. Et il n'y a rien de tel dans une société qu'avoir un débat sur la place publique parce que ça freine nos gouvernements, ça leur donne une petite gêne à vouloir nous imposer systématiquement une façon de penser.
Ah ouais, la méthode dictature, là, ça n'existe plus, ça n'existe pas au Canada ni au Québec. Hein.
Non, c'est ça.
Mais comme tu dis, en fait, c'est nous qui décidons ça là, aux élections. Ça passe aux élections, parce que ça, c'était une de ses promesses électorales, M. Legault.
Tout à fait. Et je crois qu'il y en a qui ne l'ont pas pris au sérieux, parce que il y en a qui ont voté pour la CAQ pour d'autres raisons que celle-ci, mais ils ont été surpris que M. Legault n'est pas comme les autres politiciens qui promettent des choses puis qu'ils ne le font pas. Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça que les libéraux, eux autres, vont dire que c'est pas à l'État de dicter aux gens ce qu'ils peuvent ou non porter, peu importe leur croyance. Et ça, moi, j'adhère à ça. Maintenant, d'un côté ou de l'autre, là, il va y avoir des contestations, c'est clair. Parce que si le gouvernement Legault avait laissé les choses telles quelles, c'est sûr que les laïcistes auraient dit, ben là, un instant, nous, on veut pas que l'État soit associé à une religion ou à des religions. Donc, il y aurait eu continuellement des gens qui auraient essayé de revendiquer leur vision du monde. Et maintenant que le gouvernement s'est dit, bon, ben, on va essayer de trouver un compromis.
On ben, c'est ça. On élimine tout.
Ouais, ben là, c'est ça. Ça va être devant les tribunaux, c'est certain, parce que, bon, comme tout le monde le sait, il y a une commission scolaire anglophone qui est prête, justement, à faire de la désobéissance civile en disant, nous, on respectera pas ces lois-là. Wow. Et donc, à ce moment-là, c'est clair que on n'a pas calmé les opposants. Au contraire, on les a alimentés. Donc, j'ai l'impression qu'on va en parler souvent, toi et moi, de cet enjeu-là.
Ah, j'ai l'impression. Surtout que on voit que le premier ministre, M. Legault, semble vraiment à cheval de ses décisions. Là, hein? Mm-hmm. Comme la ministre a dit, la ministre Guilbeault, la loi, c'est la loi. Il va falloir qu'on se plie à la loi. Écoute, ben là, je vois bien, moi, cette école anglophone où des gens vont appeler la police pour se plaindre. Wow! Hey, on n'a pas fini d'en parler, Eric.
Ah non, c'est sûr. Mais écoute, le ministre Legault a été ministre de l'Éducation, ministre de la Santé. Il a une expérience, c'est un leader, ça a été un chef d'entreprise. Donc, il a le flair en tant que leader, en tant que chef de son organisation, chef du gouvernement. Il a de l'assurance, il y a des sondages qui l'appuient. Là où est-ce qu'il n'y a pas l'appui de la population, c'est au niveau du crucifix à l'Assemblée nationale. la majorité des Québécois sont en faveur à ce qu'il demeure dans le Salon Bleu. Ouais. Et moi, je serais en faveur qu'il demeure là, ne serait-ce que pour dire le gouvernement ou l'Assemblée nationale n'est pas ouverte à n'importe quel courant philosophique. On a un historique, on a un patrimoine, puis on doit être prudent lorsque vient le temps de justement laisser des courants philosophiques ou des courants religieux influencer le gouvernement. Et ça, pour moi, c'était comme une protection en disant, ben, au Québec, on a un arrière-plan judéo-chrétien, on fête Pâques, Noël, l'Action de grâce, on a des crèches, on a des croix un peu partout, ça fait partie du panorama. Maintenant, en enlevant ça, comme je dis toujours, eh bien, l'être humain a horreur du vide. Est-ce que ça rouvre la porte à d'autres courants? C'est possible parce que après la CAQ, il va y avoir un autre gouvernement, puis on ne sait pas ce qui va se passer.
Moi, et en même temps, je pense à entre autres là, Lynn Shand, la dame qui était conseillère à Ville d'Anjou, qui s'est fait soigner à l'urgence par une dame, un médecin, une dame médecin qui portait le voile. Et là, elle a fait un statut. Enfin, bref, c'est très controversé, ça. Je te dirais, les avis sont très controversés à ce niveau-là.
Oui, bien, c'est pour ça que j'ai écrit un article que j'ai publié sur ericlantier.net qui s'appelle « Occidentalisation, multiculturalisme ou mise en valeur du patrimoine
ouais. ».
Moi, j'ai toujours dit que si on mettait en valeur notre patrimoine, on calmait la tension. On calmait la tension parce que, à ce moment-là, le multiculturalisme ou le fait que tous les courants sont égaux n'a pas nécessairement sa place parce qu'on a un historique, on a une couleur, mais chacun est libre de pratiquer sa religion, de mettre en valeur sa culture, mais il ne peut pas l'imposer à l'État. Et c'est là que, pour moi, je me dis, c'est là que l'État aurait pu démontrer sa neutralité en disant, nous, on a une neutralité religieuse, mais on a un sentiment d'appartenance avec notre histoire, avec les héros de notre histoire, avec les symboles de notre histoire. Et c'est pas parce que on va être soumis au pape, par exemple, ou on est soumis à des pasteurs, mais c'est tout simplement, ça fait partie de notre panorama historique patrimonial. Exactement, c'est ça. Et pour moi, c'était le meilleur compromis. Et malheureusement, il n'y a aucun parti politique qui a voulu capitaliser là-dessus. Et ça me déçoit un peu, mais qu'est-ce que tu veux, en démocratie, on en gagne puis on en perd. Hein?
Ouais, c'est sûr. Écoute, Éric, tu nous parles aussi l'enseignement à la maison. Sauvegarder l'enseignement à la maison. Qu'est-ce que tu veux dire?
Ben écoute, c'est parce que il y a une dame qui a lancé une pétition et ça l'a paru sur la plateforme Havas. Et donc, sur cette plateforme-là, on peut lancer des pétitions puis écrire des textes. Et elle fait l'apologie de l'école à la maison. Elle cite son cas personnel où est-ce que son enfant s'est épanoui parce que lorsqu'il était à l'école, il y avait des difficultés, il était mis à part, ça a généré de la colère et ça a amené des mauvais comportements. Depuis qu'il fait l'école à la maison, tout a changé. Mais elle réclame par le fait même des revendications. Et moi, j'ai été directeur d'école et je peux dire que j'ai eu des élèves qui ont transféré de l'école à la maison à notre école. Et dans certains cas, c'était très, très, très positif. Et dans d'autres cas, ben, il y avait des ajustements à faire.
Il y avait des retards, j'imagine, aussi.
Oui, tout à fait. Des retards, des lacunes et des fois aussi des difficultés à retrouver ou rentrer dans les rangs parce qu'il y a une discipline en classe, il y a des pupitres puis tout ça.
Ah, ben ouais.
Donc, moi, je suis en faveur à ce que l'école à la maison peut s'exister, mais d'une façon encadrée et régie. C'est important parce que, au bout de la ligne, là, l'enfant, là, même s'il a du plaisir et est motivé à apprendre, si à la fin de son parcours, il n'est pas en mesure, par exemple, d'entrer au cégep ou d'appliquer à un emploi parce qu'il manque des éléments à sa formation, bien là, il va le reprocher à ses parents. Et c'est pour ça que moi, je crois que elle a dit ils ne devraient pas être soumis, ceux qui font l'école à la maison, les enfants, aux tests du ministère. Et là, moi, je dis là-dessus, je suis d'accord avec ces autres points, mais là-dessus, je dis non, parce que ça, c'est une sécurité sociale, c'est une sécurité pour l'enfant lui-même, parce qu'à ce moment-là, il va être obligé d'avoir à passer au travers les tests. Et à ce moment-là, ce que ça lance comme signal, c'est qu'un diplôme, ça a une valeur égale pour tout le monde.
Ouais.
Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, ce qu'on pourrait faire, je me dis, on devrait avoir un diplôme d'études de base, que ce soit pour les élèves qui sont à l'école, qui ont de la difficulté, ou les élèves qui sont à la maison, et avoir un diplôme d'études secondaires générales et un diplôme d'études internationales. Donc, les enfants qui font l'école à la maison, qui ont des difficultés, puis qui ont de la difficulté à réussir les tests du ministère de l'Éducation, à ce moment-là, ils pourraient avoir un parcours particulier où est-ce qu'il y a un diplôme de base, où est-ce que tous les élèves, ceux qui ont de la difficulté, pourraient avoir un parcours pour eux qui est spécial pour eux, parce que ça sert à rien. Moi, je sais, j'ai été directeur d'école, j'ai été enseignant. Il y a des élèves que le milieu académique, c'est pas fait pour eux. Ils ont besoin d'un parcours particulier. Et je pense que ça devrait transcender l'école maison, ça devrait être dans tout le système éducatif, avoir un parcours qui est prévu pour ces jeunes-là. Ça, c'est mon grain de sel, disons.
Ben, en fait, tu as entièrement raison. Mais là, j'essaie de voir, je me projette dans le futur où tu as un système avec différents diplômes. Encore là, je sais pas au niveau travail de l'employeur qui recherche une place de discrimination là-dedans.
Ben, écoute, je te donne un exemple. Un baccalauréat, on va dire, ou une certification en médecine, quelqu'un qui veut s'en aller, par exemple, il va être ce qu'on appelle docteur ou médecin, mais il va suivre un parcours universitaire. Puis quelqu'un qui a, par exemple, un bac en histoire, ça n'a pas la même valeur. Puis tout le monde le sait, donc. À ce moment-là, en fonction de sa certification, il va pouvoir se trouver un certain nombre de travail ou un certain nombre d'emplois, je devrais dire. Parce que chaque certification a sa valeur. Mais si on baisse les standards du diplôme d'études secondaires pour faire passer tout le monde, parce qu'on a un grand nombre de décrocheurs, on enlève de la valeur à ce diplôme-là. Mais par contre, si on garde les mêmes standards, mais que ceux qui ont la difficulté, de toute façon, ils réussiront pas le diplôme d'études secondaires. Puis ils ne pourront pas se trouver un travail qui correspond à une formation qui est exigée. Et là, à ce moment-là, ces jeunes-là vont devoir, soit plus tard, quand ils vont être plus matures ou plus vieux, retourner sur les bancs d'école, ou trouver un travail, un emploi en fonction de leurs capacités. Parce que ça sert à rien d'essayer de les forcer, de les mettre sur les bancs d'école, ils échouent, ils décrochent, et à ce moment-là, ils ont même pas, au bout de la ligne, puisqu'ils n'ont pas leur diplôme, ils ne sont pas capables de trouver un emploi. Un emploi qui correspond à leurs désirs. Donc, c'est pour ça que je préférerais, moi, ajuster le diplôme en fonction des capacités puis de l'atteinte des objectifs des élèves en fonction de leur cheminement puis de leur développement.
C'est sûr que, en tout cas, là, tu touches à un point où je suis plus en accord devant des élèves qui vont être encadrés dans des institutions d'enseignement l'enseignement à la maison. Là, moi, l'enseignement à la maison, là, je suis tellement là, ouf, je me suis dit, voyons, ça n'a pas de bon sens. C'est incompréhensible.
Ouais, mais il y en a qui réussissent très bien. Il y en a même qui vont au-delà des attentes. C'est
Ben,
ça
des
qui est
parents.
difficile. Oui, parce que des parents éduqués,
Et voilà.
oui, mais ça fonctionne pas. Disons que c'est pas une carte magique. Moi, je l'empêcherai pas, mais je l'encadrerai comme il faut pour que, justement, chaque élève soit obligé de passer les tests du ministère, parce que sinon, ça pénalise l'élève au bout de la ligne.
Écoute, moi, j'ai en mémoire, là, entre autres, une amie qui devait aider son fils à faire ses devoirs quand il revenait de l'école. Il était genre 3e, 4e année, là, et que elle comprenait rien. Elle avait de la misère à comprendre le
Oui.
devoir de son fils.
Tout à
Alors,
fait.
je me mets dans la peau de ce parent-là qui, lui, dit, bon, c'est moi qui, à partir de maintenant, qui va éduquer mon enfant à la maison. Waouh, bravo!
Ouais. Mais ce qui arrive, c'est que il y a 30 ans, ça se passait pas mal comme ça, mais maintenant, il y a des associations de parents éducateurs qui fait que, par exemple, moi, si j'ai de la difficulté, j'étais enseignant, mais j'ai de la difficulté avec les sciences. Alors, moi, je sais que dans mon réseau puis dans mon quartier, il y a des parents éducateurs qui font l'école à la maison, qui, il y en a un, par exemple, un parent, un homme ou une femme, un papa ou une maman, qui, elle, cette personne-là, elle a la capacité. Donc, on va faire des échanges de services. Donc, moi, je vais aller enseigner le français, je vais aller enseigner d'autres matières, l'histoire, la géographie. Puis, ce parent-là va venir chez nous avec ses enfants, puis elle va enseigner les sciences. Donc, de plus en plus, c'est ça qui est en train de se créer. Et ça crée des réseaux de parents qui s'épaulent, puis qui s'appuient, puis qui échangent des services. Et souvent, ils vont louer des locaux pour amener les jeunes à socialiser, faire des activités en commun, des sports. Et de plus en plus, les parents qui font l'école à la maison amènent leurs enfants à socialiser parce que ça se fait de plus en plus en réseau au lieu de se faire famille par famille. Et dans ces conditions-là, c'est plus gagnant. Donc, il y a plus de facilité pour l'élève de progresser, d'atteindre des objectifs, de se développer, que si c'est seulement un parent qui est tout seul puis qui fait tout le travail. C'est impossible d'être bon dans tous les domaines, spécialement au secondaire.
Ah, c'est sûr. Écoute, Stéphane, Éric, on se mélange avec toi et Stéphane. Éric, écoute, c'est toujours super intéressant. Pourquoi je vous mélange, toi et Stéphane?
Ouais.
Parce que vous êtes mes deux chroniqueurs et je vous ai mis la même journée. Je sais pas pourquoi. Je pense que je vais vous séparer les deux parce que ça n'a pas de bon sens. Vous êtes tellement intéressants tous les deux, toi et Stéphane.
Bon, mais je sais pourquoi tu m'appelles Stéphane, parce que tu veux que les auditeurs Stéphane d'Éric.
Stéphane d'Éric. Ah oui, exact. Éric, merci beaucoup, mon ami. On se donne rendez-vous mercredi prochain. Une superbe, encore une fois, académique très intéressante. Des sujets qui viennent me chercher, puis que j'en batte, puis que j'aime. J'adore ça. Merci beaucoup, Éric.
Au plaisir.
Et on se parle mercredi prochain.